Bonjour à tous et à chacun, à toutes et à chacune, Christophe au micro de Radio Grand Ciel pour cet écho de ma commune et qui nous permettra de visiter tout à l'heure la maison départementale de la prévention sous la conduite de l'adjudant de gendarmerie Charrier. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un voyage intérieur à la découverte des souffles vitaux de l'univers. Je m'explique, le colloque de l'Association française d'acupuncture a réuni 140 spécialistes il y a 15 jours à Chartres. On croit toujours que l'acupuncture se résume à quelques petites aiguilles plantées dans l'épiderme des malades, mais que nenni, l'acupuncture est une philosophie autant qu'une médecine. C'est ce que j'ai découvert en interviewant Guy Andresse et Elisabeth Rocha de la Vallée. Bon voyage à tous. À mes côtés, le président de l'association française, c'est ça, d'acupuncture ?
Gilles Andresse, oui.
Et Elisabeth Rocha, freelance en chinois ancien.
Freelance en chinois ancien, c'est magnifique. Alors, c'est à Chartres que se déroule ce congrès national d'acupuncture. Je suis entré un peu par hasard tout à l'heure, donc je vous ai écouté les uns et les autres, et je me suis aperçu qu'effectivement, c'est un monde en soi, où on retrouve des termes qui nous sont très familiers, comme le cœur, la tête, mais j'ai l'impression que les acceptions sont différentes que dans la philosophie occidentale.
La pensée.
Alors, qu'est-ce que... Déjà, qu'est-ce que l'acupuncture ? Un acupuncteur, il travaille sur quoi ?
Il travaille sur les souffles, l'équilibre énergétique du corps humain, en essayant de le réharmoniser, puisque la santé, c'est l'harmonie des souffles dans le corps.
Mais qu'est-ce qu'on entend par souffle ?
Alors ça, c'est la grande question. Je dirais que c'est toutes les activités vitales, quelles qu'elles soient, tout ce qui se passe, tout ce qui fait que quelque chose se fait, se transforme, évolue, échange, se modifie, tous les effets, toutes les circulations, tous les mouvements, tous les rythmes, et tout ceci vont marquer qu'il y a quelque part un souffle qui fait quelque chose. Par exemple, quand on voit une rivière qui coule, on ne voit que de l'eau. Mais le fait que l'eau soit en mouvement et qu'elle ait des tourbillons ici ou là marque qu'il y a, par exemple, quelque chose qui fait que ça bouge et que ça bouge de cette façon-ci ou de cette façon-là. Et ça permettra de se dire, il y a un souffle et un souffle qui est comme ceci à cet endroit-là, comme ceci, comme cela à cet autre endroit. Hein. Et donc, par exemple, vous parliez du cœur hein, ou d'un organe. Prenons par exemple le foie. Bon. Eh bien, on va, en Occident, avoir une approche du foie. Ça va être plutôt une masse que l'on va connaître parce qu'on la dissèque, parce qu'on connaît les cellules du foie, parce qu'on sait ce que c'est, ce que ça se passe dans le foie. Hein. Et tandis qu'en Chine, ce que l'on va appeler foie, ça sera toutes les activités d'une certaine modalité de souffle, un certain mode d'activité, partout dans le corps, dans la pensée, dans les émotions, il y a quelque chose qui pousse avec une certaine force, qui évidemment ne doit pas être excessive. Par exemple, il y a une certaine poussée qui fait que du sang vient dans mes muscles, les gonfle et me permet de développer une activité musculaire à travers les articulations. Mais le même mouvement, la même force agissante, je dirais, dans ma pensée me permet de faire des projets, de voir loin, ou dans les émotions me permet d'avoir une certaine audace, d'aller de l'avant. Alors bien sûr, ça peut s'emporter quand c'est déséquilibré, ça donne douceur de trou. Par exemple, ça donne de la colère, par exemple, ça donne une imagination débordante, mais qui se déréalise, etc. Enfin, bien sûr, on ne peut pas faire de la physiopathologie en 3 minutes. Mais je dirais, voilà, on regarde toujours le souffle. Et les activités du foie, on les connaîtra parce que on sait ce que c'est que ce souffle. On voit comment il agit dans la nature. C'est celui qui fait pousser la végétation au printemps, par exemple, etc., etc. C'est celui qui se voit dans les jeunes pousses, les jeunes animaux, les jeunes humains. Il a une qualité particulière de la vie qui n'est pas la même selon les âges, etc. C'est un souffle qui se modifie. Et alors, l'analyse, c'est de regarder quel mouvement de souffle est à l'œuvre, quel mouvement de souffle est perturbé, et comme vient de le dire Gilles Andrès, de rétablir par les moyens de la médecine chinoise une harmonie, une régulation, que tout s'écoule selon l'ordre naturel.
Ce souffle, c'est le qi, j'imagine, c'est ce que les Chinois appellent le qi, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'ils appellent le qi.
Alors ce qi, mais on le voit pas, il vient d'où et comment les Chinois l'ont-ils mis en évidence?
On le voit pas, mais on le fait tout de suite. Vous venez de prononcer ces paroles à la question, et ben avec un certain qi. Bon, il était là. Vous tenez votre micro, il faut bien qu'il y ait du qi dans votre main pour que vous teniez votre micro. Et moi qui vous parle, il faut bien que j'ai du qi dans ma poitrine et dans mon esprit pour pouvoir parler et énoncer quelque chose qui peut-être fait un certain sens dans mes paroles. Hein? Donc, tout est qi. Alors, comment le voit-on? Ben, dans les manifestations, dans ce qui prend forme, et dans les mouvements, et les échanges, et les effets, hein, etc. Et alors, après, tout ça, bien sûr, ça demande un certain temps d'étude pour voir le détail.
Est-ce qu'il est question du qi dans le taoïsme, par exemple? Est-ce qu'il y a un rapport direct entre l'acupuncture et le taoïsme?
Ce n'est pas parce que l'on parle du qi qu'il y a un rapport, puisqu'en chinois, on ne va parler que du qi. On en parle partout. Bien sûr, par exemple, dans les livres les plus connus du taoïsme, enfin, ou du pré-taoïsme, le livre de la voie et de la vertu, le antétique de Lao Tzu, ben, le mot qi apparaît, le caractère qi apparaît au chapitre 42, et il apparaît du reste comme l'harmonie, comme la puissance de vie qui vient de l'harmonie.
Ouais. Mais d'où vient l'acupuncture? C'est une science, elle remonte à quelle époque?
C'est très ancien, c'est bien avant Jésus-Christ. Même. Et puis, c'est des choses qui se constituent petit à petit. Et puis, on ne sait pas trop parce qu'on manque de textes. Mais les textes anciens, pour certains, dateraient du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Au moins. Je voulais dire quelque chose sur le chi. En fait, c'est l'animation, c'est ce qui permet que les choses soient animées et qu'elles bougent.
C'est l'anima, quoi.
L'anima ou l'animus, c'est plus compliqué que ça. C'est un peu compliqué. Bon, on rentrerait dans des choses de détail, mais en Occident, on a l'esprit, l'âme et le corps, et en Chine, on a l'esprit, l'âme et ce qu'on appelle l'essence, etc. Bien que ça soit pas complètement égal par ailleurs, mais la structure est un peu identique. Je voudrais ajouter quelque chose sur la notion de maladie et de souffle. Les expressions populaires françaises, quand elles parlent des organes, sont très proches de la physiologie chinoise. Par exemple, quand vous dites que vous avez mal au rein, eh bien, vous n'avez pas mal au rein, c'est des douleurs lombaires. Mais comme les lombes sont sous la puissance énergétique des reins en médecine chinoise, on est exactement dans le même contexte. Et que donc, il y a beaucoup d'expressions populaires c'est par cette fosse qu'on accède à cette vitalité intérieure et qu'on permet de la réguler quand elle est bloquée.
Est-ce que ces trous, est-ce que ça a à voir avec les chakras, par exemple, dans l'hindouisme?
Oui et non, c'est-à-dire que rien ne sera identique à ce qui s'est développé dans une autre civilisation, une autre culture, avec un autre langage. On ne pourra jamais faire d'amalgame. L'amalgame est toujours une erreur. Maintenant, si l'on prend l'autre perspective, que nous sommes des humains et nous partageons énormément, même avec les Chinois d'il y a 2000 ans, nous avons un corps qui est à peu près le même, avec des organes, à la fois des deux reins, etc., des oreilles, des yeux. Apparemment, nous avons les mêmes souffrances, les mêmes désirs, les mêmes nécessités vitales, les mêmes changements des saisons, etc. Enfin, et nous éprouvons des émotions, des passions, des désirs proches. Hein. Donc, bien sûr, il va y avoir tout un impact culturel. Mais nous partageons quand même énormément. Donc, il est normal que l'on retrouve des choses qui s'apparentent. Et cet apparentement est une richesse du patrimoine humain. Et on peut faire, alors non pas des comparaisons, mais on peut connaître et regarder, établir des liens entre ce qui a été développé de cette façon-là dans cette civilisation ou de cette façon-ci dans cette autre. Bien sûr. Et ça peut même donner des idées, des enrichissements. C'est peut-être comme ça que nous construirons la médecine du futur. Mais l'amalgame est non seulement inutile, mais il est générateur de fautes, d'erreurs. Enfin, il nous fait régresser.
D'où vient cette passion pour la Chine ancienne?
Oh, ça vient d'un père jésuite que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, qui était un spécialiste de la Chine, qui avait lui-même vécu 5 ans en Chine, le père Claude Lard. Et alors, il m'a carrément fait passer sa passion pour les textes anciens de la Chine, la civilisation chinoise, la langue classique, en particulier le taoïsme. Et puis après, nous avons rencontré très rapidement, enfin en 70, 71, le docteur Jean Schatz, qui était un médecin, acupuncteur, que Gilles Andrès du reste a bien connu, hein. Et alors on s'est embarqué dans la médecine, voilà. Et j'ai jamais regretté.
Qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'acupuncture et qu'est-ce qu'on ne peut pas soigner ?
On peut soigner beaucoup de choses, tout ce qui est de la pathologie fonctionnelle, mais aussi peut-être des choses peut-être plus graves, des pathologies psychiques, même psychiatriques. Ce que vous pouvez pas soigner, par exemple, c'est un cancer, mais ce que vous pouvez faire, et ce qui se fait extrêmement fréquemment et reconnu par les cancérologues, c'est accompagner les chimiothérapies, parce qu'on a beaucoup moins d'effets secondaires, etc. Il y a aussi un enseignement qui est fait maintenant pour les sages-femmes, et la grossesse est un lieu particulier puisque on peut pas donner de médicaments et donc beaucoup de troubles vont des nausées jusqu'aux lombalgies, les insomnies, les bébés qui se présentent en siège, tout ça, ça peut relever de l'acupuncture. Tout d'une certaine façon, quand il s'agit de rééquilibrer l'organisme humain, peut relever de l'acupuncture. Mais vous avez les migraines, les maladies de peau, les troubles digestifs, les constipations, les diarrhées, etc.
Alors, bien sûr, la phytothérapie va pouvoir également soigner des choses que l'acupuncture seule a du mal à soigner. Mais comme je disais, la médecine chinoise ne se réduit pas à l'acupuncture seule.
Est-ce que pour le taoïsme, ou plus largement peut-être pour l'acupuncture, finalement le mal extérieur, la maladie est l'expression d'un déséquilibre intérieur forcément ?
Oh, pratiquement oui. Ouais. La grande cause des maladies, c'est que l'homme ne sait pas se cadrer, qu'il ne sait pas s'arrêter, qu'il ne sait pas conserver son équilibre émotionnel, et que c'est ça qui alors commence le processus qui mènera à des maladies. Et que même des maladies, par exemple, j'attrape un coup de froid, j'attrape un rhume, je peux dire, j'attrape un rhume, ça n'a rien à voir avec mes émotions. Ben, si, la plupart du temps, ça a quelque chose à voir.
Racontez-nous ça, alors.
Ben, bien sûr, pourquoi j'ai attrapé froid ? Parce que je suis sorti en oubliant mon manteau. Pourquoi j'ai oublié mon manteau ? Parce que je pensais à quoi ? Hein ? Ou bien alors, parce que je me suis fatigué de trop la veille, je suis sorti en boîte, et là, je prends froid parce que je suis trop fatigué, etc. Ou je n'ai pas fait assez attention. Ou bien je suis distrait, je suis dans le métro, je m'aperçois pas du courant d'air qui est sur ma nuque, et puis voilà.
Il y a les virus quand même aussi.
Bien sûr, et alors ? Bien sûr, et alors, est-ce que tous les virus ne touchent tout le monde de la même façon tout le temps ? Non, donc il n'y a pas uniquement que des virus.
Alors la solution c'est quoi ? Je sais que dans le taoïsme il est question de se laisser accorder au cours des choses, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, hein, ici.
On retrouve des sagesses un peu... Ce que ça veut dire dans ce monde chinois, c'est que il y a les mouvements de la vie, tous ces souffles qui font la vie, on peut discerner des mouvements et des modèles de mouvements. Par exemple, dans la nature, il y a une alternance des saisons qui est régulière. Bon, même si elle n'est jamais, c'est pas le métronome, même si on a un printemps en avance ou un hiver en retard ou n'importe, et même si deux hivers ne sont jamais semblables, il y a quand même une régularité dans la succession. Ça me donne des idées sur la propre régularité que je dois avoir en moi. Et on voit qu'il n'y a pas d'excès. Le froid est déjà mais aussi intense sur Terre pour détruire toute vie. La chaleur non plus, ça se saurait. Hein. Donc, comment l'homme peut-il arriver à des extrêmes de dévastation en lui-même qui détruit sa propre vitalité, hein. Et donc, en apprenant, alors bien sûr c'est difficile à dire en deux minutes, mais en regardant, en apprenant de l'ordre naturel dans toutes ces manifestations, comment les souffles se meuvent, j'arrive à les diriger en moi. Par exemple, là on peut retrouver non seulement des méditations, mais le Qigong, le Tai Chi, etc. Mais l'acupuncture va faire ça que quand je le fais sur une autre personne. C'est de la médecine. Quand je le fais sur moi-même, c'est l'entretien de ma vie. Je nourris ma vie, je fais en sorte que toutes mes activités, tous mes souffles, c'est-à-dire toute ma physiologie, tout mon affectif, mon mental, etc., suivent davantage l'ordre des choses, c'est-à-dire procèdent davantage selon le mouvement de la vie elle-même. À ce moment-là, je développe au maximum les capacités de ma vie, ce qui est en plus la meilleure prévention et la meilleure immunité. Je ne lutte pas contre la mort. D'abord, c'est idiot, je nourris ma vie.
Nous faisons partie intégrante de la nature, c'est un peu ça.
C'est sûr, oui, bien sûr, on fait partie de la nature et du respect des mouvements de la nature, de sa, de sa, de ce qu'elle nous enseigne.
Hein. Est-ce qu'un acupuncteur travaille aussi, je veux dire, sur lui, sur son chi et ses...
Discipline personnelle. Ah, mais chacun choisit sa discipline. Moi, j'en ai une, mais il y en a d'autres qui en ont, qui font du qigong, qui font du tai chi, qui font des exercices physiques, d'autres du yoga, etc. Mais il y a une discipline, oui. Oui.
Et vous-même, alors, vous ?
Moi, je fais une discipline personnelle qui est de la méditation, donc qui clarifie l'esprit. Donc, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on a envie de les voir.
Oui, ça, vous l'avez dit hein, tout à l'heure. On a tendance à se projeter, évidemment, sur ce qu'on voit. Hein.
C'est sûr, c'est sûr. Mais oui.
Il y a quelque chose... Tout à l'heure, moi, je vous pose mes questions en vrac, comme ça, hein, tel que ça me vient. J'ai entendu quelque chose de très beau, randonnée extatique. Tout à l'heure, c'est quoi une randonnée extatique ?
Ben, c'est une des façons qu'on a de traduire vers une expression chinoise qui elle-même s'intéresse à certains états, des états de contemplation profonde ou de personnes qui sont un peu comme hors d'elles-mêmes. Donc, par exemple, on peut appeler ça en extase ou en transe ou avec tous les degrés que l'on peut avoir. Là, je veux dire, on n'est jamais à l'intérieur de la personne qui a cette expérience. Nous ne pouvons avoir que les expériences que nous faisons nous-mêmes de cet ordre-là. Voilà. Mais nous avons des moments où justement le temps suspend son vol. Nous sommes, comme dirait Bergson, dans la durée. Il n'y a plus, le monde extérieur semble pour un instant ne plus exister. Il y a autre chose qui est là dans une expérience, une réalité autre. Par exemple, je pense qu'un musicien, quand il joue, a des moments comme ça, ou n'importe quel artiste. Il y a des moments où... Pourquoi est-ce que je fais ? Je ne sais même plus ce que je fais, je ne sais même plus qui je suis, mais je suis pleinement à ce que je fais. Et c'est là, du reste, qu'en général, les résultats sont les meilleurs. Et je dirais, ces expériences, ces moments-là sont comme hors du temps, ils sont dans les vies, quand on ne les bloque pas, quand on les laisse advenir, ils sont là.
Les arts aussi ont leur importance, ce sont des voies dans l'Asie ancienne.
L'esthétique au sens plein du terme, de la considération de la beauté qui vient de quelque chose qui se développe selon son propre processus vital, est toujours une voie, même en Occident, une voie de réflexion, une voie qui nous amène à la source de la vie. Hein. Parce que, je dirais, une œuvre d'art réussie, c'est-à-dire qui va toucher un assez grand nombre d'hommes, et pas simplement son auteur, hein, et quelque chose qui, d'une certaine façon, touche à la source commune de vie, hein, plus ou moins. Et c'est pour ça que nous sommes émus, au-delà des modes, au-delà des choses superficielles. Je parle d'une véritable émotion. Pourquoi, devant une peinture, ou une calligraphie, ou qu'elle soit chinoise, ou française, ou occidentale, nous sentons en nous quelque chose. Nous sommes émus profondément, nous avons même des fois un changement, un souffle qui se modifie. Peut-être parce que là, quelque chose est là qui nous ramène à nous-mêmes.
Merci beaucoup. Je vous pose une dernière question. Comment on devient acupuncteur ?
Comment on devient acupuncteur ? Eh bien, d'abord, il faut faire médecine. Et après, il y a un diplôme qui se fait sur 3 ans à la faculté. C'est une capacité, c'est-à-dire que c'est un diplôme d'État.
C'est-à-dire qu'il faut être médecin pour être acupuncteur ?
C'est la loi. Maintenant, il y a des non-médecins qui sont acupuncteurs. Mais légalement, il faut être médecin pour exercer l'acupuncture.
Il y a en France des milliers d'illégaux, des milliers de gens qui pratiquent l'acupuncture d'une façon tout à fait correcte, mais qui sont, c'est contre la loi.
Ouais. C'est pas nécessaire, en gros.
Ce n'est pas nécessaire d'avoir fait médecine pour être un bon acupuncteur, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, il faut avoir étudié très sérieusement la médecine chinoise. Mais pour être un bon acupuncteur, de toute façon, si un médecin, quand même, a fait 3 ans d'études, enfin, a dans son cursus 3 années où il va avoir des journées consacrées à l'étude de l'acupuncture, c'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça, même quand on est médecin. Hein. Et ça...
On peut peut-être trouver des informations sur le site, j'imagine, de l'association française.
Oui, vous devez trouver des informations sur ce qu'on fait, oui.
Le site, on peut y accéder comment, alors ?
Acupuncture-france.com.
Voilà, je vous avais promis un voyage passionnant, je pense que j'ai tenu ma promesse. Nous allons redescendre sur Terre pour partir à la rencontre des drames humains. Vous le savez peut-être, il y a un an a ouvert en face de la gendarmerie de Lucé la maison départementale de la prévention, placée sous la direction de la gendarmerie. Cette maison départementale de la prévention permet entre autres l'audition de jeunes mineurs victimes présumées d'abus sexuels ou de sévices grave. Nous avions, lors de l'inauguration de cette maison, interviewé l'adjudant Chanet qui procède aux auditions des enfants. Qu'en est-il un an après? Ben, je vous propose de l'apprendre toujours avec l'adjudant de gendarmerie Chanet que nous remercions ici.
Et adjudant Chanet, ça fait un an qu'on s'est vu. C'était ici même dans la salle Mélanie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en un an? D'abord, parlez-nous de cet outil où on est dans une salle où vous pouvez parler avec les enfants.
Tout à fait. Donc, c'est une salle qui est prévue pour les auditions et les entretiens des enfants mineurs victimes d'infractions sexuelles ou pour les enfants mineurs victimes de maltraitance, mais pas la petite maltraitance, vraiment la grosse maltraitance. Comme vous pouvez le constater, donc c'est une salle qui ressemble plus à une salle d'école, hein, parce qu'il y a une petite table ronde avec une petite chaise, il y a un canapé, il y a des livres d'école, il y a un établi, une cantine avec des jouets, hein, il y a de la moquette où ils peuvent s'asseoir aussi bien par terre. Et l'avantage de cette salle, c'est que bien évidemment, ils sont là aussi pour parler de ce qui leur arrive. Donc les enfants sont filmés, hein, puisque nous avons un système de caméras et de micros. Et dans une autre pièce, nous avons un appareil où il y a un enregistrement, puisque je pratique donc les auditions mineures ou entretiens de ces enfants avec l'enquêteur qui s'occupe bien évidemment du dossier. Donc en fonction de l'âge de l'enfant, ça peut être un entretien ou une audition. L'entretien, ça va être jusqu'à ce que l'enfant sache lire et écrire, 7 ans à peu près, ou plus grand en fonction de l'aspect psychologique de l'enfant. Et dans ces cas-là, on va être tous les deux avec l'enquêteur dans la pièce. Et sinon, quand l'enfant est beaucoup plus grand, l'enquêteur va être dans la partie technique avec un système de casque et d'oreillettes. Et en même temps, il va retranscrire ce que dit l'enfant. Voilà, il va prendre l'audition exactement en même temps. L'avantage de cette pièce, c'est que l'enfant, au niveau de l'enquête, ne le répète qu'une fois. N'a pas à le répéter une deuxième fois, c'est important. Et l'enquêteur, quand il quitte ici, a le dossier en ce qui concerne l'enfant. Donc il repart en unité un peu plus serein, on va dire.
Est-ce que vous retravaillez ensuite en revisionnant par exemple les images, en réécoutant le son? Pas du tout,
non,
tout se joue dans la confrontation.
Tout se joue dans l'instantané. Si l'enfant a des mimiques, si l'enfant a des tics, si l'enfant, en fonction de son comportement, ça va être noté dans la procédure. On le refait tout de suite après, à chaud. On ne revisionne pas, c'est pour gagner du temps.
Évidemment, l'enquêteur, lui, connaît l'affaire, il connaît l'enfant, pas vous. Ça présente une difficulté, si vous le connaissez?
Alors, non, je ne connais pas l'enfant, mais l'enquêteur, automatiquement, quand il prend rendez-vous, je lui demande de m'envoyer des pièces de procédure. Donc, ce qui me permet, moi, déjà, d'avoir une vue d'ensemble. Je ne connais pas l'enfant, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai déjà au moins une vue d'ensemble de l'affaire, ce qui me permet justement de poser des questions tout le temps ouvertes, jamais fermées, et très très larges.
Il faut des qualités très particulières pour mener ce type d'entretien. Il faut une formation évidemment, j'imagine, très étoffée.
Alors, j'ai suivi une formation d'audition mineure il y a un peu plus de 10 ans. Après, les qualités, être à l'écoute, être attentif, j'allais dire comme une bonne mère de famille, mais c'est tout, voilà. Et sans oublier le côté enquête. Et toujours rester ouvert, ne jamais être dans la critique. Voilà, faut pas que l'enfant sente qu'on va le fâcher, qu'on va le punir, qu'on va le critiquer. Non, pas du tout. Il faut qu'il sente vraiment qu'il est là pour être écouté, entendu, que moi je vais l'entendre et que je vais comprendre son mal-être.
Vous menez tous ces entretiens en uniforme, c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait, c'est important, comme ça l'enfant m'identifie tout de suite. Il sait que je suis gendarme, j'ai pas besoin de me présenter. Il sait que je suis gendarme, je suis la force de l'ordre hein, dans la pièce, et ça ne le perturbe pas du tout. De toute façon, au bout de 2-3 minutes, il oublie. Je veux dire, il y a suffisamment de jouets ici, ou de coloriage, ou de mécano, il oublie. Il oublie que je porte un uniforme, et c'est tant mieux.
J'ouvre une parenthèse, vous me direz si je suis trop indiscret, pourquoi vous avez choisi de faire très précisément ce boulot?
J'ai un peu plus de 20 ans de gendarmerie et durant ces 20 ans, j'ai fait 5 ans en école de formation. Donc je formais les futurs gendarmes. À la fin de cette formation, on m'a proposé de faire le stage audition mineure que j'ai accepté. J'ai eu de la chance à la fin de mes 5 ans d'école, enfin d'école en tant que formatrice, d'être mutée pas loin de Bordeaux. Et j'ai travaillé avec la BPDJ de Bordeaux qui... eux, cette BPDJ, parce que chaque BPDJ est plus ou moins différente, font des auditions mineures. Donc j'ai appris, on va dire, réellement comme ça. Voilà. Et quand j'ai été mutée après à Cap-Breton, du côté de pas loin de Bayonne, où là je menais les auditions toute seule, j'avais une salle Mélanie, j'ai travaillé comme à Bordeaux et on s'y attache. Oui. C'est prenant, c'est fatigant, c'est pas physique, ok, mais c'est important.
Il faut s'accrocher parfois, non ?
Quand on entend certaines choses, oui. Il faut savoir oublier et savoir décompresser, voilà. Et pour ça, il faut avoir une bonne équipe. Et à la maison départementale, la chance, c'est qu'on est tous dans la même maison, tous dans le même bateau, je vais dire, et ça nous permet de décompresser.
Tout à l'heure, le colonel évoquait l'affaire d'Outreau. Il faut aussi savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Dans le témoignage d'un enfant, ça, c'est pas facile.
C'est pas facile. Après, il y a certains enfants, quand ils mentent, ça se voit à leurs yeux ou à leur mimique. Et c'est pour ça aussi qu'à l'issue de l'audition ou de l'entretien que je procède, en règle générale, les magistrats demandent en plus à ce qu'il y ait une expertise psy, là, faite par un pédopsychiatre ou un pédopsychologue.
Combien d'enfants à peu près ont franchi la porte de la salle Mélanie cette année ?
Depuis le 1er janvier à la date d'aujourd'hui, 64 enfants.
C'est bien. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce que les rapports ont changé entre parents et enfants ?
Les rapports ont changé entre parents et enfants. Après, moi, j'ai fait beaucoup d'infractions sexuelles ou de la maltraitance au sens dur du terme. Moi, je dirais que les enfants, on les entend un peu plus. Ils sont plus leur mot à dire. On leur donne plus la possibilité de s'exprimer. Ce que je leur dis, c'est que quand ils viennent ici, ce qu'ils ont dit avant à papa, à maman, hein, ce qu'ils ont raconté, même si c'est un mensonge, moi, tout ce que je veux, c'est la vérité. Voilà. Même s'ils me disent le sens contraire, tout ce que je veux savoir, moi, c'est la vérité. Je vais pas les fâcher parce que à papa et à maman, ils ont menti pour X raisons. Hein. Moi, ici, je veux la vérité. Voilà. En règle générale, je l'ai.
Voilà, un grand merci à l'adjudant Chanet pour sa disponibilité. Fin de cette édition d'Écho de ma commune et de mon canton. Je vous retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition chartraine de cette émission. On se quitte en musique et surtout, vous restez à notre écoute.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Mal à la scène et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô maman bobo. je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, beau